Bon, alors vous allez bien après cette dure journée? Ouais, super. Moi, je vais très bien, j'ai fait la grasse mat. Alors, ah ben, on est either anybody ou on l'est pas. Hein. Ok, bonjour. Bon, je me présente très rapidement. Ensuite, on va pas tous se présenter, mais je vais vous poser 2-3 questions pour voir qui est dans la salle. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas, comme c'est marqué ici, merci. Je suis étudiant, je suis un jeune étudiant, je suis en dernière année de master à l'Institut d'études politiques ici à Grenoble. Oh là là, incroyable, incroyable. Non mais, ils prennent n'importe qui maintenant, vous savez. Alors, et l'année dernière, j'ai eu la grande chance de pouvoir être missionné pour le diocèse et j'ai travaillé pendant un an en tant que laïc en mission au service de la pastorale des étudiants. Principalement, quasi uniquement en fait à Grenoble, voilà. Et dans le cadre de cette mission, j'ai pu accompagner le développement de ce qu'on appelle nous les frates étudiantes, et qui sont un petit peu notre version des fraternités locales. Alors ça a intéressé notre vicaire général Loïc, qui m'a dit « il faut que t'en parles au diocèse lors de l'assemblée diocésaine ». J'ai dit « je pense que c'est assez différent, déjà parce que les étudiants cuisinent beaucoup moins bien que le reste de la population, donc ça donne pas les mêmes frates ». Voilà, il y a aussi la sœur Véronique Minet que vous pouvez applaudir aussi, qui interviendra à la fin de ce petit temps d'échange ensemble pour vous présenter les outils diocésains pour aider les fraternités locales à se créer et à se développer. Je vais un peu parler, mais pas beaucoup, parce que je pense que ici, il y a. Alors, dites-moi si je parle trop vite, parce que je parle souvent trop vite. Je parle trop vite ? Non, ça. Je vais parler plus lentement, ok. C'est trop fort ? Bon, je vais parler comme ça alors. Déjà, j'ai une question à vous poser. Qui ici fait ou a fait partie d'une fraternité locale telle que pensée par notre évêque dans sa... Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Eh bien, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Très bien. Qui fait partie de groupes de type équipe Notre-Dame, équipe CVX, équipe MCC, MCR, enfin d'autres sortes de fraternités en fait, famille spirituelle, etc. Ok, d'accord. Donc vous avez l'habitude aussi de ça. Donc c'est ce que je me suis dit en préparant un peu ce temps, c'est que je me suis dit finalement dans cette salle, en termes d'intelligence collective, on a tous sûrement beaucoup plus de réponses qu'un étudiant de 23 ans sur comment animer et faire mûrir des fraternités locales. Donc, ce que je ferai, c'est qu'on va tous se mettre à contribution et tous ensemble, on va essayer. Il y aura un vrai long temps d'échange pour que vraiment tous ensemble, on puisse s'aider à faire progresser ou à créer, s'il n'y en a pas par chez vous, des fraternités locales. Mais au départ, je vais partir de l'expérience des fraternités étudiantes, qui est très spécifique, puisque c'est des fraternités pour les étudiants, qui a des réussites et puis aussi des difficultés. Et je vais vous parler de ces deux trucs-là juste en introduction. Ensuite, on fera une petite mise en situation pour essayer d'identifier, c'est un petit pari que je fais, très rapidement, les principaux problèmes qu'on rencontre quand on se retrouve en petite équipe pour partager autour de la Bible, quand on est catholique et donc qu'on ne connaît pas la Bible. J'exagère un peu. C'était pour les protestants qui nous écoutent, peut-être. Alors, je vous juste un petit rappel, et voilà, mon diapo ne part pas, très bien, pourquoi pas. Là, non, toujours pas. Ah là là, ces jeunes qui ne savent pas servir de la technologie. Voilà. Je veux juste un petit rappel, c'est que les fraternités locales, c'est une intuition de notre évêque. Voilà, c'est lui qui nous réunit, alors autant failloter un peu. Dans sa lettre communion et mission, alors moi, je n'étais pas encore à Grenoble à cette époque, ni en Isère, et qui propose dans son chapitre 2 la création de fraternités locales. Donc voilà, tout est là. Pour vivre du Christ dans des communautés renouvelées, j'encourage la création pour les paroisses d'un réseau de fraternités locales pour permettre à un groupe restreint de chrétiens de se rencontrer régulièrement en semaine autour de la parole de Dieu, dans la prière et l'écoute mutuelle. Donc ces fraternités sont des lieux où on est plaisir de se rencontrer et de se stimuler à être d'authentiques disciples. Et on peut rêver que ces fraternités se développent, grandissent, qu'il y en ait de plus en plus, qu'elles aient à se scinder tellement elles ont grossi. Donc vous pourrez pouvoir discuter, de voir si c'est le cas chez vous ou pas, pourquoi. Il se trouve qu'il y a eu cette intuition de l'évêque, et alors Efata, c'est dans la basilique. Je vous l'avais dit. Ah bon ? Non. Ils ont moins de 35 ans. Moins 35 ans, basilique. Quelqu'un a moins 35 ans ? Ok. Moi, ok, au revoir. Il se trouve que cette intuition d'évêque a rejoint l'année suivante une intuition de la pastorale des étudiants, donc j'étais toujours pas là, et donc le responsable à l'époque qui était Jean-Jonathan a interrogé un peu les étudiants pour savoir quelles étaient leurs attentes. C'était l'époque où à Saint-Joseph vraiment se développait quelque chose de fort, il y avait des messes du dimanche qui se remplissaient, un café qui ouvrait, plein de groupes qui se rencontraient, des chorales, etc. Enfin toute cette... vraiment un cœur qui grossissait à Isère et Nibody, quelque chose de central. Et les étudiants ont dit, eh ben, c'est super, mais nous, on aimerait bien aussi pouvoir vivre en chrétien, pas seulement à Saint-Jean, mais aussi dans nos écoles, dans nos facs, etc., la journée, et pas seulement le soir, en semaine, ou le soir, le dimanche, à Saint-Joseph. Et c'est comme ça que l'intuition des fraternités étudiantes, elle a rejoint celle de l'évêque. Et les étudiants n'avaient pas tous lu la lettre communion et mission de notre évêque. Donc c'est intéressant de voir que c'est vraiment deux intuitions qui se sont rejointes. Et je veux juste pour vous présenter ce que c'est que la pastorale des étudiants, de manière très schématique, ici à Grenoble. On essaie pour l'organiser la pastorale des étudiants, c'est un peu un oxymore, mais autour de trois piliers, il y a des temps forts qu'on vit, voilà, des temps forts de toutes sortes, des pèlerinages, des opérations, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jésus 2017, des discos soupes où on va distribuer de la soupe qu'on fabrique sur le campus avec aux gens de la rue, des rencontres, etc. Donc des temps forts. Exemple de temps fort, c'était à La Salette, là c'est le plus récent, certains d'entre vous y étaient peut-être. Il y a des rencontres hebdomadaires qui sont la messe du dimanche soir et puis aussi depuis l'année dernière, des messes tous les soirs de la semaine et en particulier la messe du mercredi qui est suivie d'une soirée souvent qui réunit voilà une soixantaine d'étudiants pour les étudiants et des jeunes pros de l'autre côté. Et puis des fraternités étudiantes. Et donc c'est vraiment ces trois échelles, les fraternités, on est 6 7 dans une école. Les rencontres hebdomadaires, on est 50, 60, une fois par semaine, on se retrouve ou au café ou à la messe, etc. Et puis des temps forts, des grands temps forts où on peut être plus nombreux et puis on fait des choses différentes. Ah, super. Je vous demande d'accueillir Benjamin Woutherde. Voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez l'applaudir. Benjamin, mais c'est trop cool de passer. Benjamin était responsable d'une fraternité qui marchait très bien, qui marche très bien, la fraternité de l'NC Cube à l'INP, et qui fait partie de l'équipe qui a accompagné les frats dont je vais vous parler tout de suite. Et puis il pourra m'aider à répondre à vos questions. Cette photo n'est pas contractuelle puisqu'on fait rarement des frats comme ça sur le campus, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Ça c'est près de La Salette. Mais on voit aussi les montagnes depuis le campus. Voilà. On peut la vendre comme ça. Venez faire une frate, vous allez voir, à Polytech. C'est vraiment comme ça. Dans la banlieue de Saint-Martin-d'Air, c'est pareil. Alors, c'est quoi une frate étudiante? Les frates étudiantes, il faut savoir qu'elles sont toutes très différentes sur leur fonctionnement, leur durée. Si on peut identifier quelques points communs, c'est de 3 à 12 étudiants. On a lancé une frate l'année dernière pour les prépas. Donc les classes prépas, ils étaient de 3 au début, alors ça a un peu grossi. Et puis après, il y a des frates beaucoup plus grosses qui se subdivisent. Ils se retrouvent sur leur lieu d'étude, ça c'est très important. Ils ne se retrouvent pas chez l'un ou chez l'autre, en tout cas pas dans l'idée, mais vraiment sur leur lieu d'étude, dans leur cafette, sur leur campus. Donc c'est déjà ça, c'est quelque chose d'original. Et puis quand on est étudiant, on voit que c'est un des principaux barrages à rentrer dans une frate, c'est-à-dire ah tiens on se retrouve sur le lieu d'étude quoi. Donc je suis chrétien sur mon lieu d'étude et je vais aller prier, échanger sur la Bible sur mon lieu d'étude et pas caché dans mon église ou chez moi ou dans mon aumônerie quoi. Caché est un grand terme, mais ça dure une heure et demie. Donc les frates étudiantes, la difficulté c'est que c'est court parce que c'est le midi. Parce que c'est le midi qu'on étudie. Le soir, les étudiants ils ont plein d'engagement et c'est une fois par semaine. Donc ça c'est vraiment la régularité. C'est les étudiants le calent comme un autre cours dans leur agenda et ça leur permet de... C'est de la régularité qui marche le mieux, on se rend compte. Donc, quand c'est en dessous, ça devient très disparate. Et puis c'est une formule simple, donc on mange, selon où on est, on mange plus ou moins bien. Un panini, c'est très bien. On échange autour du texte d'évangile de la semaine et là ça prend des formes, c'est préparé très différemment selon les frates et puis on prie ensemble. Voilà, ce que c'est qu'une frate. Et ça c'est commun à toutes les frates étudiantes. Alors les frates étudiantes, voilà, on a commencé les frates étudiantes il y a 4 ans. C'était juste, il y en avait une à l'UGA et je pense une à l'INP. Aujourd'hui, il y en a dans tous ces établissements. Alors elles ont des têtes différentes, certaines disparaissent en cours d'année au moment des partiels, réapparaissent, etc. Mais il y a vraiment un phénomène ça attire les étudiants, les frats. Il y en a de plus en plus qui rentrent voilà, dans ces frats. On a plusieurs frats à l'université, pas autant qu'on devrait par rapport au nombre d'étudiants. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est en expansion, ou au moins quelque chose, en tout cas, tous les étudiants qu'on rencontre quand ils sont dans une école, ils nous disent, j'aimerais bien qu'il y ait une frat dans mon école. Voilà. Alors, il y en a, certaines, ça pose problème. Dans les plus petites écoles ou celles qui sont excentrées, c'est dur de trouver 3-4 chrétiens pour monter une frat. Mais voilà. L'année dernière, on s'est dit, nos frats, c'est bien, mais on les accompagne pas très bien. Elles sont très différentes. Il y en a qui disparaissent en cours d'année, on sait pas trop pourquoi. Il y en a, quand on va voir de plus près, en fait, ils échangeaient plus trop autour de la Bible parce qu'ils savaient plus trop quoi faire de ces textes-là. Donc on échange sur l'évangile du dimanche suivant. Ça, c'est, j'ai oublié de vous dire, très important. On échange sur l'évangile du dimanche suivant pour deux raisons. Un, parce que c'est pratique, on n'a pas à réfléchir à quel texte on va... Voilà, on a juste à ouvrir un missel ou l'application AELF. Et deuxièmement, parce qu'on a le corrigé à l'homélie. Non, c'est très, très, très étudiant, vous savez. Je dis ça en rigolant, mais il y a beaucoup d'étudiants qui disent ça, hein, on a le corrigé à l'homélie. Donc ça met la pression à nos prêtres à Saint-Jean, c'est très bien. Donc voilà, donc on a les frates. Et puis l'année dernière, donc dans ces frats, il y a des responsables. Ça, c'est vraiment le rouage essentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frat si on n'a pas un responsable. Et souvent, une frat, c'est un responsable. C'est un étudiant motivé qui prend son portable, qui recueille des numéros de téléphone et qui contacte les étudiants, qui dit « Ok, demain midi, on se retrouve à la cafette et on fait une frat. Voilà. » Et qui prépare un petit peu, qui a lu l'évangile avant, etc. Donc ça, c'est vraiment les responsables de frat. C'est vraiment notre... J'ai pas de mots. Donc le béaba, c'est le béaba, voilà. Donc depuis l'année dernière, on essaye de les former un peu. Ça a commencé doucement. Et surtout, on a monté une équipe dans laquelle était Benjamin. C'est pour ça que c'est trop chouette qu'il soit là. Deux, trois, quatre étudiants qui avaient de l'expérience dans les frats, qui étaient dans ses premières frats, ou qui avaient de l'expérience dans le partage biblique, ou qui étaient beaux garçons comme Benjamin, par exemple. Et un aumônier, donc le père Emmanuel, et un laïc en mission, donc c'était moi. Et on se retrouvait tous les 15 jours, et au début on faisait le point sur les frats. Où est-ce qu'ils en sont? Donc chacun suivait 2, 3, 4 frats, les contactait. Alors ça va, comment ça se passe? Vous aviez combien de monde la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez changé? Quelles ont été les difficultés? Et puis on essayait de suivre chaque frat personnellement, les responsables, d'être attentif à leurs questions. Et puis on a commencé aussi à développer nous-mêmes des outils pour aider ces frats. C'était un petit début. Cette année, ça prend une autre ampleur avec les personnes qui me succèdent et qui bossent mieux que moi. On commençait à faire vraiment un bon suivi des frats. Et donc, cette équipe d'accompagnement, on s'est rendu compte que ça structurait les frats, que ça les aidait à durer dans le temps. Alors qu'avant, il suffisait que pendant deux semaines, on ne se rencontre pas à cause d'une période d'examen ou parce que c'est les vacances, et la frat disparaissait en cours d'année, quoi. Ça arrivait où il y avait moins de monde. Avec un suivi comme ça, avec les responsables de frat qui avaient le contact d'accompagnateurs et qui pouvaient dire, ah voilà, aujourd'hui, la frat, j'ai senti que ça baissait un peu. Les accompagnateurs de frat qui allaient voir les responsables de frat, parce que c'est surtout ça qui marchait, qui les contactaient, alors comment ça s'est passé, et ben, ils sentaient qu'ils avaient des gens sur qui s'appuyer, d'autres étudiants. C'est vraiment d'autres étudiants. Je parle trop vite, trop fort, trop vite. Ok, je vais plus doucement, on me fait signe. Voilà pour les frats étudiantes. Après, un truc que j'ai pas mis, c'est que les frats ont vraiment leur spécificité propre. Certaines sont très préparées, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a un binôme qui se retrouve, qui prépare des questions, qui fait des petites recherches sur le texte, qui parfois prend un autre texte pour aller l'éclairer, etc. D'autres sont moins préparées. Certaines, c'est juste, ils se retrouvent une fois par semaine. D'autres, ils vivent d'autres choses, ils partent en rando, ils mènent des actions solidaires, ils se retrouvent sur une des actions proposées par Isère Anybody. Voilà, donc les frats sont des dynamiques très différentes. Je vous parlerai un peu après de certaines spécificités. Mais ce que je voudrais qu'on essaie maintenant, c'est qu'en fait, ça c'est très beau, mais on s'est rendu compte d'une difficulté, c'est que finalement, on ne sait pas, on a du mal à partager sur la Bible, notamment quand on est étudiant, on est perdu, souvent on a l'impression de tourner en rond, etc. Donc je voudrais qu'on fasse une petite mise en situation ensemble, parce que comme je vous ai dit, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire sur les fraternités locales, donc autant écouter ce qu'on a à dire. Je vais vous proposer de faire des frats pendant 15 minutes. Voilà, c'est des frats rapides. Des frats par groupe de 5. Et alors, on ne va pas partager sur un texte, on va partager sur une phrase, parce que c'est 15 minutes. Donc, mettez-vous par 5, là, repérez-vous. Vous êtes... C'est bon ? Ça va là? Oui. 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 Super.
Tu peux, si tu veux, tu peux aller voir Efrata et tu reviens dans 20 minutes.
20 minutes.
Pour les questions après, je fais un débrief.
Alors, c'est bon, tout le monde a trouvé sa frate? Alors, on va pas refaire tout ce que vous avez fait toute la journée, discuter sur votre paroisse. On va tenter une frate et surtout après, vous allez me dire ce que vous avez vécu et puis on va voir. Je prends le pari que j'ai noté sur un papier les problèmes que vous allez relever. Je prends le pari que vous allez les dire juste après. Alors, cette frate, il y a deux consignes très simples. Prenez le temps de vous présenter les uns les autres. Et deuxièmement, vous allez discuter ensemble, échanger ensemble sur cette phrase de l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 22. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Bonne frate à tous. Alors, je vous laisse conclure vos échanges. Pour pouvoir ne pas vous proposer de corriger, vous irez sur Google Bible. Ou vous demanderez à Véronique, qui vous donnera les explications de texte. Elle est très contente que j'y file ce rôle. C'est une blague. Ou pas. Alors. Déjà, ça vous a inspiré. Je sens que l'esprit souffle depuis ce matin, là, visiblement. Qui n'a pas eu assez de temps ? Donc ça, malheureusement, je crois que c'est le cas à peu près tout le temps quand on fait une fraternité. Mais peut-être parce qu'on ne prend pas les choses dans le bon ordre, je vous en parlerai. Qui s'est posé dans sa frate la question, ça veut dire quoi, fils de l'homme ? Et vous n'étiez pas d'accord, et fils de l'homme, et ça vient d'où, etc. Que ça, attendez. Ah bon, il y a quelques mains, d'accord, ok. Oui. Ok, vous n'avez pas perdu de temps là-dessus. Ou alors vous étiez déjà au courant du piège, très bien. Vous êtes plus au courant que les étudiants. qui a eu à peine le temps de présenter chacun des membres de son groupe et vous êtes attardé sur le fait de savoir « Ah oui, vous venez de Moiran, moi aussi, ma petite fille, etc. » Non, vous avez été efficace, visiblement. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. On va faire un truc absolument pas chrétien. Fermez les yeux. Attention, c'est très important pour cet exercice. Je vais demander aux personnes qui ont trouvé que ce qui s'est dit autour, ah, c'était bien, mais ils n'ont rien appris de nouveau, franchement, c'était pas ouf. Enfin, c'était intéressant, mais c'est rien de révolutionnaire. De lever la main, s'il vous plaît. Fermez bien les yeux. On fait en toute honnêteté, s'il vous plaît. Ah, c'est intéressant, hein. Baissez la main, merci beaucoup. Donc ça ne m'étonne pas. Pour ouvrir les yeux. Alors, le nombre de mains levées est plus bas que ce que je pensais, donc c'est bien. Ça veut dire que, mais je pense que c'est aussi lié à ce que beaucoup d'entre vous avaient l'expérience des fraternités locales, et je pense qu'en fait, je vais rien vous apprendre en vous disant que une fraternité locale n'est pas un groupe d'exégèse. Voilà. Donc, juste après, on va passer à un temps d'échange, et je pense que vous aurez vu ce que j'ai entendu. Alors, qui a triché et au lieu de discuter de la phrase, a parlé de comment on fait des frats chez nous et comment on organiserait le fonctionnement? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je vous ai vu, je vous ai entendu. Vous n'avez pas respecté l'exercice, c'est pas bien. Vous avez fait les deux. Oui, c'est ça. En 15 minutes, efficace. Alors, ça, c'est un problème qu'on a souvent avec les étudiants, c'est que, on n'a pas compris le texte, on a passé 15 heures à se dire que c'est qui le fils de l'homme, question qui n'a pas de réponse évidente, même pour les meilleurs biblistes. Deux éléments sur cette question du groupe d'exégèse. Une fraternité pour les étudiants. Ce qu'on essaye de porter à Isère et Nemody, c'est dire que c'est d'abord une fraternité, c'est-à-dire un lieu fraternel. Donc ce n'est pas d'abord. Donc le texte, le partage autour de la Bible nous réunit, mais nous ne venons pas étudier le texte biblique. Nous venons relire nos vies éclairées par le texte qui nous est proposé par l'Église pour le dimanche à venir. En partageant autour de ce texte, on crée des liens. On crée des liens de fraternité, et le plus important de cette fraternité, c'est de créer des liens de frères et de sœurs et de sentir qu'on est des frères et sœurs chrétiens. C'est pour ça que dans les fraternités, on les encourage à partir faire des randos ensemble. Il y en a qui font des laser games, des choses comme ça. Enfin, on a eu plein de. Laser game, c'est vous allez dans une pièce fermée toute noire et vous vous tirez dessus avec des lasers. C'est super. J'avais proposé de faire ça à l'Assemblée diocésaine, mais Rodolphe. Dans la basilique, c'était trop bien. On met du noir sur les vitres d'Arcabas et puis on. Enfin bref. Ça a été refusé, on ne peut rien faire dans ce diocèse. Voilà. Donc, deuxième écueil. Alors, ce que je vais dire là, c'est éminemment subjectif, discutable, et c'est vraiment l'objet, c'est de lancer après pour que vous puissiez poser des questions et peut-être vous répondre les uns les autres, plus que moi, je vous donne des réponses parce que je ne suis pas sûr d'en avoir. Deuxième chose. Ce qu'on dit aux étudiants, c'est qu'une frat ne devrait pas être un club de cathos. Pas au sens que ça ne devrait pas être un endroit où on se retrouve qu'entre cathos, parce que pour entrer dans une frat, il faut quand même avoir envie de lire la Bible, pas comme un ouvrage scientifique ou pour la contester ou pour poser la question de est-ce que Dieu existe, mais de se dire je veux vivre de ce texte. Je veux vivre de ces évangiles, et donc il faut, si ce n'est être chrétien, au moins vouloir suivre le Christ, ou commencer à vouloir suivre le Christ. En tout cas, dans les frats étudiantes, c'est plus simple. Cela dit, c'est pas un club de cathos. Dans une des frats, on avait deux jeunes protestants. La petite difficulté, c'est que les cathos, ils n'osaient plus rien dire une fois que les protestants avaient donné leur avis sur le texte. Mais c'était intéressant. C'est l'aspect club, en fait. L'aspect club, c'est que dans un club de foot, on fait du foot et on ne dit pas forcément dans un club de foot les problèmes qu'on a en dehors du football. Ça dépend des clubs de foot, hein, je ne connais pas tous les clubs de foot, mais les problèmes de vie qu'on a, on n'échange pas peut-être sur les questions importantes qui nous taraudent dans notre vie d'étudiante, etc. Dans un club, on échange sur le sujet du club. Voilà. Et donc, il faut faire attention que les frats ne soient pas un club. Ça, c'est et que quand on est à la frat, on parle que de trucs de catho ou qu'on parle que de trucs de l'école. Ça, c'est aussi un truc qui est arrivé pour les étudiants. Voilà, on parle du prof machin, etc. Mais qu'on puisse y parler de ce qu'on vit et de ce que la vie étudiante qui est pas simple même pour des gens qui sont dans des grandes écoles avec une famille proche, etc. Et ben ce que ça fait sur notre relation au Christ, notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, etc. Et pour ça, on invitait vraiment les étudiants à, notamment par exemple, un petit jeu de présentation. C'était plutôt que dire alors tu fais quoi, t'es quelle filière, etc., d'où tu viens, dire quelle était leur plus grande espérance, leur plus grande peur, leur raison d'espérer et leur raison d'avoir peur. Voilà. C'est une manière assez simple de dire on va tout de suite essayer de toucher des choses profondes et rapidement, sans perdre trop de temps à se découvrir, parce que enfin, le temps passe en une heure et demie et même en une année. Le troisième écueil, je suis d'accord qu'il est discutable, mais ça arrive aussi, la frate n'est pas une cellule d'aide psychologique. Donc oui, c'est un lieu où il faut, où on est invité à partager sur sa vie de chrétien. Cela dit, la frate n'est pas un lieu thérapeutique, tout simplement parce que les gens qui sont autour de la table n'ont pas forcément les compétences ou peuvent être maladroits en plus hein, pour aider ces personnes. Et donc c'est important de se rappeler qu'on est réunis autour du texte pour parler autour du texte et relire sa vie et pas raconter sa vie. Relire sa vie et pas raconter sa vie. Parce que c'est pas simple pour les personnes, c'est pas parce que c'est chiant, mais c'est parce que c'est pas simple pour les personnes qui sont autour de la table, c'est pas forcément le lieu adéquat. Voilà. Ça peut le devenir si on décide de prendre en compte les soucis d'une personne, etc., et dans une dynamique de diaconie, de prendre soin de cette personne-là. Mais le but premier de la frate, c'est pas ça. Donc c'est une difficulté. Alors on peut le discuter, hein, sachant que les frates, on peut avoir des vocations très différentes. Hein. Qu'est-ce que pourrait être une frate ? Ça serait un lieu d'écoute de la Bible, plutôt que d'essayer de lui arracher une compréhension et dire des choses à la Bible, « Ah, je te comprends pas, gnagnagna. » Écoutez la Bible, écoutez, la laisser résonner, parce qu'en fait, on ne lit pas beaucoup la Bible, notamment quand on est étudiant. Ce n'est pas Isabelle Carlier qui vient de pointer sa tête qui va nous contredire. c'était pile le moment de le dire quand même. La bibliste du diocèse pointe sa tête au moment où je dis ça. Et c'est un lieu où nous on propose au moins une fois dans la semaine, autre que la messe, on aura ouvert sa Bible et on aura échangé autour. Et puis souvent ça donne envie de le faire plus souvent. Et peut-être seul le matin ou le soir. Que ce soit une équipe missionnaire plutôt qu'un club de catho, donc un club, on reste au club, on vient au club à des horaires fixes. Une équipe missionnaire, c'est quelque chose qui sort. Et c'est pour ça que la frate n'est pas la fin de... Enfin, je veux dire, le partage biblique et l'échange et le fait de se retrouver une fois par semaine n'est pas la fin des frates étudiantes. La fin des frates étudiantes, c'est d'être des lieux de mission et non pas des lieux de protection, des lieux où on vient se... tout est non-chrétien dans ma fac, il y a des beuveries, il y a des machins, etc. Les profs disent des choses qui ne me conviennent pas. Heureusement, il y a la frate où je peux retrouver mon cercle de catho et je suis en sécurité. Non. La frate est un lieu de mission sur le campus, un lieu de présence chrétienne, un lieu dont on peut parler. Moi, frate à Sciences Po, je dis à mes collègues, je peux pas manger avec vous parce qu'on a la frate, on va échanger autour de la Bible, etc. Et ça permet d'avoir des bonnes discussions comme ça. Donc c'est important. Donc une équipe missionnaire, c'est un des points les plus difficiles. Et oui. Et puis une cellule accueillante. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de beaucoup plus m'étendre là-dessus. Mais c'est important que nous, c'était un enjeu qu'on avait à Easy Rain Body parce que c'est un gros machin, Easy Rain Body. En tout cas, ça donne l'impression de l'être. Et quand on est à une soirée avec 60 étudiants, un événement, un pèlerinage avec 150 étudiants, à une messe avec 500 personnes, on se sent pas forcément connu ou reconnu. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui se souvient de notre nom. Alors on essaye de s'améliorer là-dessus, ou qui se rend compte quand on est absent. Et la frate, c'est le lieu pour nous à Easy Rain Body. C'était le lieu où quand on est absent, ah tiens, machin, il est pas là. Ah tiens, salut Thomas, salut Francis. Dès la deuxième frate, on connaît ton nom. Et on avait besoin de ces lieux-là. On avait les colocs pour ça, mais tout le monde n'était pas en coloc. Et donc c'était vraiment avoir un lieu où on soit connu et reconnu. Donc ça, c'était un enjeu qui est peut-être particulier, mais peut-être pas que Easy Rain Body. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que avant de laisser la parole à Véronique pour présenter un peu les outils diocésains très concrets, des choses très utiles que nous-mêmes on utilise, et que les étudiants demandent, notamment les fiches hebdomadaires, est-ce que vous avez des remarques, des questions, vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dit, ce qui est tout à fait possible. Alors on m'a juste demandé de vous faire passer le micro, parce qu'il paraît qu'on est enregistré, mais ou sinon vous posez votre question et je vais la répéter. Et puis alors n'importe qui peut réagir, hein. On n'est pas encore magistral, ne faites pas à ce que vous ne voulez pas subir. Hein. Oui madame.
Je vous entends. Oui.
Bien
D'accord.
Il y a des questions un peu pareilles comme ça ? Quand vous dites outils, le suivi, qu'est-ce que vous entendez par suivi exactement ?
Oui. Oui.
D'une part, l'outil principal, c'était l'équipe en elle-même. Donc, avec des interlocuteurs, exactement, qui, peut-être Benjamin pourra dire un mot, qui contactaient toutes les semaines ou toutes les deux semaines les responsables de FRAT pour voir où ils en étaient. Et ensuite, on discutait et on proposait une réponse, notamment aux questions qu'ils avaient. Qui pouvaient des questions. Alors, on n'a pas trop abordé les questions sur les textes en eux-mêmes, mais des questions plutôt sur l'organisation de la FRAT, sur des questions d'ordre général. On n'arrive pas à fonctionner de telle manière, mettre des conseils. Et puis, on a organisé aussi quelques petits événements. Un peu pour former les responsables de FRAT et les membres de FRAT. Peut-être que, développer ça, ces événements. Alors, on avait fait un événement qui s'appelait Update ta FRAT en janvier, qui était à base de crêpes au Nutella et c'était un brunch, c'était sympa. Et on était avec Hélène Loken, c'est ça, je prononce bien, hein, oui, qui est, que vous connaissez peut-être. Qui est très calé en termes de partage biblique dans le diocèse. Et on avait proposé un temps d'échange, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, en expérimentant autour d'un texte, pour voir quelles questions se posaient souvent. Et puis avec le père Emmanuel Deco, essayer de comprendre quels écueils à éviter. Et typiquement, ce qu'on disait, c'est que en une heure et demie, si on s'accroche à une question précise ou à un terme précis, on perd notre heure et demie, même si c'est très important. Si quelqu'un se focalise sur « je comprends pas cette partie du texte », on peut perdre, c'est vraiment notre problème principal, on peut perdre notre heure et demie en se dire « on comprend rien à ça ». Et donc là, y a les deux solutions qu'on proposait, c'était un, il faut préparer, et on invite vraiment à préparer une FRAT, on n'arrive pas... donc c'est pas forcément... On invite tous les membres de la FRAT à avoir lu le texte avant, mais bon, après, souvent, ils n'ont pas pu le faire ou ils ne l'ont pas fait. C'est des étudiants, il ne faut pas non plus en demander trop. Mais au moins, qu'il y ait une personne. Donc, il y a la FRAT, des FRAT à GEM, par exemple, juste à côté, à Grenoble École de Management. Chaque semaine, il y a deux personnes qui se portent volontaires et qui préparent. Donc, ils se retrouvent et puis ils préparent, ils lisent le texte, ils prient, ils se renseignent un peu sur Internet, ils lisent les notes de bas de page de la Bible de Jérusalem et ils préparent des questions adaptées. Ils lisent aussi la fiche diocésaine que va présenter Véronique. Et puis, donc, ils préparent un peu ce temps-là. Ils peuvent proposer un truc un peu ludique, une manière un peu sympa d'approcher les choses. Proposer un texte qui entre en résonance, pas forcément un texte biblique d'ailleurs. Et alors, ça, c'est la solution. C'est la solution a priori. Puis la solution a posteriori, c'est de dire si on accroche trop sur quelque chose, voilà, on note la question. Et puis on l'envoie par mail ou par SMS à l'équipe, et puis nous, ou alors on la note, et puis ou on charge quelqu'un dans la FRAT, plus simplement encore, de voir un peu ce qu'il en est, et puis à la FRAT suivante, il dira, ben voilà, on s'était posé cette question-là à la dernière FRAT, pour éviter de... voilà. Donc ça, là, le rôle du responsable de FRAT est très important, parce que c'est lui qui va dire, ah, j'ai l'impression que là on est en train... on est en train de gâcher un peu notre heure de frat sur cette question précise. Donc arrêtons-nous là, notons la question. Personne ici a la réponse. Donc ça, c'est aussi ça, c'est ces outils de formation qu'on donnait. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Ouais, bien sûr.
Nicolas a bien présenté, mais les outils que nous on essayait de donner. Aux différents responsables de FRAT, c'était d'être vraiment présent pour écouter tout l'aspect. D'abord, vraiment, c'était des aspects qui peuvent paraître simples, mais qui sont vraiment primordiaux, c'est l'aspect logistique, comment on se retrouve, où. C'est pas forcément simple de trouver une salle, par exemple, dans son école ou sur l'université. Donc, c'est avoir les contacts avec, par exemple, on avait le EVE, donc c'est les locaux qu'il y avait là-bas. C'est aussi se donner les moyens de se dire, on va se réunir dans l'école et du coup, on... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas à avoir peur de ça, et se donner les moyens de se retrouver dans l'école. Ça peut être des petits soucis comme ça d'ordre logistique, et se dire on dépasse cette peur-là. Après, les soucis qui revenaient et c'était vraiment voilà, comment arriver à parler de la parole de Dieu. Et des fois, on arrive devant un texte, soit tout est clair, on n'a rien à dire, soit tout est très compliqué et finalement, on ne sait pas expliquer. Et c'est vrai qu'on bah, on n'a pas de formation théologique, de formation biblique. Il y a pas souvent, enfin des fois le père Emmanuel a pu venir occasionnellement dans les frates, mais il est pas là de manière récurrente et tout, permanente. Et donc c'est se dire, on réfléchit sur le texte, on a plusieurs temps. Le temps d'abord on va vraiment lire, le suite après comment ce texte va résonner dans ma vie, comment je peux le mettre en application, et vraiment pas buter sur certains points. Et si on bute sur certains points, comme le disait Nicolas, voilà, soit faire remonter à nous, mais aussi on pouvait en parler au père Emmanuel qui S'il avait retenu plusieurs questions, pouvait après en refaire des points dans ses homilies derrière. Bon, c'est un peu la vision idéalisée, mais c'est se dire ce qu'on a mal compris, les points sur lesquels on a buté, essayer de pas les garder pour nous, mais les transmettre à nous puis au père Emmanuel derrière. Et après, voilà, il y avait, je pense que tu as présenté aussi les différents textes qu'on mettait sur le lien, voilà, sur Internet. Et donc, différentes phrases fonctionnaient aussi, pas forcément qu'avec l'Évangile, mais aussi avec des textes. Par exemple des textes du UCAT qui est le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, ou des textes du pape François, et donc c'était aussi partagé sur parfois des textes différents de l'Évangile, comme chaque phrase fonctionnait un peu avec ses spécificités. Il y en a qui vont plus s'attacher à la lecture de la parole de Dieu de l'Évangile chaque semaine, mais d'autres plutôt à d'autres textes en fonction des thèmes qui peuvent être abordés. Parfois on avait des thèmes par mois à Easy Anybody qui correspondaient aux différentes soirées, et donc ces textes venaient agrémenter et apporter quelques connaissances et réflexions sur ces thèmes qui peuvent être qu'est-ce qu'on a eu, on a eu la solidarité, la paix, c'est ça. Donc, pas mal de thèmes différents, et du coup ces textes venaient préparer en amont les soirées qu'on pouvait avoir. Oui. Alors, là, je vais parler plus d'expérience que moi j'ai eue dans la frate que j'avais à l'école. Ça n'a pas été toujours simple de mettre en place vraiment un temps consacré à la prière. Nous, la manière dont on vivait notre frate, c'était ce temps d'échange au début très fraternel de repas, puis ce temps important biblique de partage sur la parole de Dieu. Et à la fin, on essayait au maximum de prendre ce temps, ces 5 minutes de prière, mais qui peuvent souvent se retrouver raccourcis parce qu'un échange avant était trop long et hop, il faut repartir en cours. Donc c'est vrai qu'arriver à toujours garder ce temps pour la prière n'était pas forcément simple, mais elle était à la fois aussi très simple, dans le sens où le responsable de frate ou celui qui avait préparé la frate de la semaine avait trouvé une prière, ou allait juste on va dire un Notre Père, une dizaine de chapelets, et puis après confier des intentions qui sont en rapport sûrement avec le texte. On a trouvé des choses dans le texte qui peuvent nous apporter sur notre vie de tous les jours, essayer de les mettre en application et les confier au Seigneur dans la prière. Et confier aussi nous les uns les autres, nos études, nos parcours professionnels, confier nos amis qui ne sont pas là à la frate parce qu'ils ont des soucis. Et puis aussi, on avait aussi cette dimension missionnaire qu'a présenté Nicolas, prier pour les nouveaux qu'on va essayer d'intégrer dans la frate pour qu'ils puissent découvrir au fur et à mesure. On priait beaucoup pour les nouvelles personnes qui allaient arriver dans la frate. Après, la spécificité que j'avais dans ma frate, c'est qu'on avait aussi des personnes protestantes. Et du coup, ça mettait dans les prières une dimension un petit peu différente. À la fois nous, avec notre prière du « Je vous salue Marie » qu'on disait, qu'ils ne disaient pas, mais eux qui avaient une manière de prier différente, mais à la fois très, très profonde, très intéressante, et qui nous a tous marqués. On sentait qu'on vivait quelque chose de profond quand on priait tous ensemble. Et puis cette dimension de prier au sein de l'école, renforce énormément les liens qu'on peut avoir entre nous, se dire voilà, il y a un lieu de prière et on prie dans une salle, dans l'école, dans l'université. C'est quelque chose de très fort, et au maximum on essaie vraiment jamais de rater cette prière de fin de frate. Oui.
Pascal, paroisse au fin de Milan. Je pense que dans notre paroisse la fraternité locale fonctionne très bien.
Et ben vous les laissez faire. J'ai pas le meilleur moyen que votre frate de grands jeunes ou de jeunes adultes, si je préfère ce terme, cette frate de jeunes adultes fonctionne, c'est alors si vous en avez quelques-uns qui sont motivés, alors bien sûr ça dépend bien sûr de qui sont ces jeunes, mais Oui, voilà, ben, c'est ça. Vous les laissez faire. Vous pouvez les accompagner, les orienter, répondre à leurs questions, être disponible, les soutenir matériellement, notamment. Les excuser quand ils font des bêtises. Mais vous les accompagnez. Vous accompagnez ceux qui accompagnent. Ne vous mêlez pas directement de ce qu'ils font. Ils vont faire ça à leur manière et puis ils vont venir vous voir. Et par contre, vous montrez que vous êtes disponible pour ceux qui accompagnent, ceux que vous avez responsabilisés. Voilà, c'est le conseil que je vous donne pour n'importe quoi que vous faites avec des jeunes adultes, en fait, ou avec même des adolescents de plus de 14 ans.
Voilà, et encore une question, allez-y. Ah, une...
Vous allez beaucoup aimer la veillée de ce soir.
Alors, merci à chacun. Et je pense qu'on peut continuer les échanges parce que c'est riche aussi de se dire, malgré tout, même si ce n'était pas le but de l'exercice, de savoir comment chacun fait, comment chacun a mis en œuvre et de se partager nos belles idées. Ben ça, c'est assez génial. On n'a pas encore trouvé le moyen de, on se disait un petit peu, de développer sur le site Internet un lieu de dialogue un peu entre personnes de fraternité, justement pour... échanger les idées. En tout cas, si vous avez des témoignages, bon, moi je suis preneuse. Hein, l'adresse courriel, c'est celle du diocèse, véronique.minet, @, etc., machin, truc chouette. Donc, vous n'hésitez pas. On est en train d'y réfléchir de nouveau. L'évêque a envie que vraiment la dynamique des fraternités locales continue, se développe. Et peut-être qu'il y aura un jour un événement, une journée autour de toutes les personnes qui sont en fraternité locale ou toutes les personnes qui sont en responsabilité de fraternité. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à le dire à l'évêque dans un coin de... Voilà, dans un petit dialogue de bouche à oreille ou de faire une lettre, parce que je pense que ce serait important de se retrouver pour ça. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous vous adressez à Emmanuel si vous voulez faire ça sur votre paroisse. Mais il nous a déjà bien dit le déroulement, mais ça peut aider hein, si vous avez envie de lancer ça sur votre paroisse. Donc, les outils, je vous les rappelle simplement, vous les connaissez sûrement. Donc, il y a deux livrets qui avaient été faits par le CEDIFO quand il existait encore le CEDIFO. Donc, se mettre en route en fraternité locale, c'est vraiment pour des fraternités qui démarrent, pour leur dire comment faire la première rencontre. J'en ai mis ici, donc vous n'hésitez pas à vous servir, en prendre, pour vous ou pour d'autres qui voudraient lancer. Parce que peut-être vous avez déjà lancé des fraternités, mais n'hésitez pas à en parler avec d'autres. Il y en a un autre qui s'appelle « Au fil des évangiles du dimanche », qui reprend un peu justement sur chaque rencontre, comment on peut vivre chaque rencontre, et aussi en lien avec les temps liturgiques. Il y a un petit mot sur chaque période liturgique de l'année qui peut aider à vivre en fraternité. Donc voilà, ça existe. Et puis, bien sûr, si vous ne l'avez plus, parce que je me suis rendu compte que c'était un peu passé dans les placards, en tout cas la maison diocésaine, je ne sais pas, dans vos paroisses, la lettre, il y a pour une mise en place des fraternités locales. Je l'ai relue à l'occasion de cette rencontre. Ben, j'ai trouvé que vraiment, il y a de belles intuitions, beaucoup de souffle. Donc voilà, c'est pas mal si vous l'avez perdu au cours d'un déménagement ou si c'est enfoui sous une autre pile, ben reprenez-en ici. Et puis là, je vais vous refaire passer la fiche. Alors, petit test aussi, sans fermer les yeux, qui utilise les fiches du diocèse parmi vous pour ces fraternités? Voilà, quelques-uns, mais pas tout à fait même la moitié. Donc, je redis qu'il y a sur le site du diocèse, il y a un onglet sur la première page qui s'appelle Fraternité locale, et au service des fraternités locales et des équipes liturgiques. Et donc, vous tapez sur cet onglet et vous allez trouver plusieurs choses. Donc, la première chose, ce sont effectivement les fiches des trois dimanches qui viennent. Donc, je vous ai tiré celle de demain. Donc, si jamais là où vous êtes, avec quelqu'un, oui, celle de demain. Voilà, pour que vous puissiez l'avoir. Donc c'est en PDF, vous pouvez la tirer, la photocopier. Donc cette fiche, Elle est faite pour expliquer ben, justement des consignes d'animation, un peu comment faire, comment se mettre en présence de l'Esprit-Saint, comment commencer d'abord en se laissant étonner par le texte, poser ses questions. Et ensuite, il y a deux grands temps sur ce que le texte dit, être attentif à ce que le texte dit et puis ce que le texte nous dit. Et il y a aussi, parce que notamment Nico parlait de Fils de l'homme, et donc on avait mis des éléments de compréhension à la fin de l'affiche. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit, nous on a besoin d'avoir les éléments de compréhension au début de la réunion, ça nous évite de passer tout notre temps à se poser des questions justement sur des mots, et après on prend vraiment le temps d'échanger entre nous. Et puis, voilà, donc c'est après, à peu près le contenu de cette fiche qui est, comment dire, la radio, donc Stéphane Debucher nous a demandé à RCF de faire une émission à partir de ces fiches. Donc il y a tous les samedis et dimanches matin à 8h30, 7 minutes, qui, comment ? C'est une heure pour les étudiants, parce que vous avez remarqué qu'ils ne font jamais la grasse mat, mais pour les étudiants, il y a la possibilité, et pour tous ceux qui ne captent pas RCF Isère, et nous sommes nombreux dans ce cas-là, donc c'est un podcast, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que le podcast est avant l'émission. C'est assez rare, mais on l'a demandé vraiment, parce que les fraternités, souvent bien sûr, sont avant le samedi ou le dimanche concernées. Donc voilà, donc c'est normalement, si vous ne la trouvez pas, vous envoyez un petit mot à RCF en disant... Comment se fait-il ? Parce qu'ils sont en train de mettre ça en place, donc ça les aidera si... voilà. Donc on reprend de manière orale ces fiches. On a une petite équipe de 5 personnes, dont Anne-Marie... Où est-ce qu'elle est, Anne-Marie ? Elle n'est pas là ? Si. Donc c'est Anne-Marie Bonnémé d'un Lève-toi pour qu'on... Voilà, c'est elle qui est un peu... Qui organise un peu nos rencontres pour préparer ces fiches. Ça veut dire que ça fait un travail, effectivement, de mise à l'oral. Et on essaye d'avoir un temps de prière aussi sur l'émission à la fin de la présentation de l'affiche. Voilà. Je voulais aussi sur l'onglet fraternité. Donc vous avez un petit mot sur une fraternité, c'est quoi ? Donc ça peut être intéressant pour d'autres. On est encore en train, parce qu'on n'est pas très, moi personnellement, puis... pas très très doué pour faire des trucs aussi bien que ce qu'on a vu là tout à l'heure. Donc c'est pas encore super joli, super bien média, c'est un peu très littéraire notre manière de faire. On essaye de faire des programmes, mais il nous faut du temps. Donc voilà, il y a quelques témoignages, qu'est-ce que c'est qu'une fraternité. Et il y a aussi après une liste d'outils que je vais vous faire passer. Comme vous êtes venus là, vous n'aurez pas, vous serez pas obligés d'ouvrir Internet ce soir pour aller voir les outils, mais pour d'autres fois. Parce que les fraternités, il y a sur l'évangile du dimanche, et moi j'ai entendu quand même plusieurs fraternités qui disaient, on a envie de faire autre chose. Depuis 3 ou 4 ans qu'on lit ensemble les textes du dimanche, on a envie de faire autre chose. Là, dans notre petit groupe, il y a quelqu'un qui a dit, nous on prend les actes des apôtres. Il y en a qui ont peut-être envie de faire l'évangile de l'année en suivi. Il y en a d'autres qui se disent, pourquoi pas un texte de l'Ancien Testament. Donc là, on a fait un petit répertoire d'outils qui sont des sites d'autres diocèses ou d'autres personnes. Alors notamment, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Envie de Parole. Donc vous tapez sur Google Envie de Parole et là, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de propositions de lecture en groupe, soit d'un évangile, soit d'un texte d'un prophète, soit d'un texte de l'Ancien Testament. Alors, dans Envie de Parole, il y a beaucoup d'éléments. C'est vraiment plutôt pour ceux qui sont responsables de la fraternité qui peuvent s'en servir pour préparer. Ce n'est pas forcément à donner à tout le monde. Voilà, sur les évangiles, sur chacun des évangiles, vous trouvez beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi ce qu'on avait mis au début, deux choses qui peuvent aider ceux qui animent et qui sont responsables des fraternités. Un ouvrage qui s'appelle « Les évangiles, textes et commentaires ». Vous aurez la référence. Donc, il y a quelque chose sur chaque évangile, très bien fait. Et puis, de Marie-Noël Tabu. Donc, il y a soit les ouvrages, et il y en a sur chacun des évangiles, à la fois sur le temps ordinaire et sur les temps, je ne sais plus comment le mot, non ordinaire, enfin, les temps spécifiques, les temps festifs, voilà. Les temps festifs, et vous trouvez ça aussi sur Internet. Hein. Marie-Noël Tabu, elle a commenté pratiquement tous les textes. Voilà, donc je vous fais passer cette feuille aussi. UCAT, c'est le le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, UCAT. YOUCAT. Voilà. Et dans les outils, je le signale parce que je l'ai rajouté, j'espère. Attends, est-ce que quelqu'un peut me redonner une feuille, s'il vous plaît? Merci. Je crois que je vous ai donné ce matin. Non. Non, ça y est pas encore, mais ça va y être prochainement sur le site. Mais excusez-moi, je ne l'ai pas mis. Il y a... c'est dans la paroisse de la Croix de Valchevrière. Il y a un prêtre qui a référencé des citations de pères de l'Église qui correspondent à chaque évangile de chaque dimanche. Donc, si vous allez sur le site de la Croix de Valchevrière, vous le trouvez. Et puis, vous aurez la référence aussi. Voilà, c'est en train de s'actualiser là sur le site. Excusez-moi, là, j'ai pas bien regardé que c'était... la paroisse, la Croix de Valchevrière, c'est Villard-de-Lans, pour situer. Hein. Voilà, et m'échappe le nom, c'est le père Jean... Jean Pernon, voilà. Le père Jean Pernon, qui a fait un travail remarquable. Mais Anne-Marie me disait aussi, si on met la référence de l'Évangile, Matthieu 25, par exemple, chez les pères de l'Église, ben vous allez trouver des tas de choses. Voilà, de temps en temps, sur l'affiche, quelquefois, quand on fait l'émission, soit on prend un texte de Père de l'Église, soit une prière. Voilà, on essaye de varier un peu. Je crois que c'est un peu tous ces outils-là. Et puis, si vous avez... Là, on est en train d'essayer le service évangélisation pour être davantage encore à votre service, de recenser un peu tous les lieux où il y a des fraternités, combien il y en a par paroisse, tout ça, pour qu'on puisse recréer une dynamique diocésaine autour de ça, se soutenir, parce que ce que disait Emmanuel, que vous faites dans la paroisse, d'avoir quelqu'un qui, justement, sur la parole, nous, Dieu, nous ferait un topo un peu dynamique, et pour tout le monde, ça pourrait nous relancer, nous redonner envie, voilà. Donc on est en train de réfléchir comment, quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on est vraiment preneurs, voilà, au service. Est-ce que vous avez des questions sur les outils? Oui.
Quand on prend la page du site, il y a souvent l'évangile du dimanche précédent, l'évangile du dimanche suivant et l'évangile du dimanche d'après. Donc il y a trois évangiles. Et on aime bien qu'il y en ait deux après la date. Parce que quand on se voit, parfois on saute une semaine dans nos rencontres. Donc on peut avoir les deux. Celui de la semaine où on ne se rencontrera pas, mais où on pourra travailler aussi chacun l'évangile du dimanche suivant, parce que c'est devenu vraiment... on s'attache à ce travail sur l'évangile du dimanche suivant pour arriver, comme vous disiez, avec déjà un travail sur l'évangile et avec la correction de l'homélie.
Oui, moi je prends la parole juste pour vous dire un grand merci aussi. On s'en sert beaucoup de vos fiches, mais en particulier la partie comment me parle la parole dans ma vie, parce que c'est des questions profondes qu'on n'aborderait sans doute pas si on ne les avait pas devant nos yeux. Et c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément facilement des réponses, et ça nous interroge vraiment dans le fond. Et je trouve que c'est vraiment la façon de creuser comment la parole nous parle. Ça, c'est très intéressant. Merci.
Merci. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui fait ces fiches. Donc là, maintenant, on est arrivé à avoir presque les trois années complètes. Donc il y a des laïcs, il y a des religieuses de monastères, notamment il y a des sœurs de Chalais, des sœurs du monastère de la Visitation, qui ont contribué à des fiches, des hommes, des femmes, parce qu'au début, on avait une équipe, on n'était que des femmes. On s'est dit, justement, quand on pose les questions sur la vie, c'est pas la même manière de les poser, donc ça nous a paru intéressant. C'est pour ça qu'il y a une diversité aussi dans les fiches. Je finis, puis je vous passe la parole. Et puis en vous écoutant les uns les autres, dans la fraternité. Moi, j'avais une fraternité aussi avec un couple évangélique quand j'étais dans le Nord-Isère, dans un petit village. Et en fait, on terminait toujours, et ils m'ont dit, ils ont repris la fraternité, ils ont dit, on garde ça. On refaisait toujours un tour à la fin de la rencontre pour se dire, à la fin de notre échange, qu'est-ce que moi je garde dans le cœur de cet échange ? Une chose. Et ça, c'était vraiment très précieux, parce que même celui qui n'avait pas beaucoup parlé, eh bien, il avait quelque chose à dire à ce moment-là. Et voilà, et je trouve que c'est un moyen aussi tout simple, comme la proposition tout à l'heure de vivre avec ses cinq sens, avec le corps, de dire on refait un petit tour. Et ça permet de se poser, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et ça nous rend le partage, en fait. Alors...
Et dans cette expérience, on a proposé une progression où effectivement on n'est pas parti sur la lecture de la parole. Là, c'était plus lié à la doctrine sociale, des textes de l'Église. Mais on a aussi proposé, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, on faisait toutes les semaines, et il y a une semaine, comme on est en temps très court, on lisait le texte. La semaine suivante, on partageait sur le texte. Et puis, quand on lisait le texte, on avait le temps, par exemple, de mettre en place la prière les uns pour les autres, mais très très simplement. C'est-à-dire que, en fait, ça c'était une expérience qu'on a découvert ensemble, très forte, où on peut concrètement chacun exprimer au Seigneur quelque chose qu'on vit actuellement sur sa vie personnelle, professionnelle, et chacun reformulait, donc par petits groupes de trois ou quatre, et c'est extrêmement puissant, parce que on sent que le fait de s'adresser au Seigneur, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais du coup on découvre aussi que les personnes elles s'initient à une prière personnelle avec le Seigneur dans leur vie quotidienne.